Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité dramatique et néanmoins théâtral avec l'éveil du printemps de la critique. J'ai nommé Charlotte Lipinska de Vanity Fair, Armelita de, ou Armel Elio plutôt, du Figaro, avec Vincent Josse de France Inter, le grand atelier bien sûr de 15h à 17h tous les dimanches que vous écoutez, j'espère. Jacques Nerson de l'Obs pour parler ce soir de Quelque part dans cette vie de Faust, de l'éveil du printemps, d'une actrice, de deux mensonges et une vérité, des inséparables et de Hugo au bistrot, et c'est au sens propre d'ailleurs, Hugo au bistrot. Dans le courrier de la semaine, et bien rarement je n'ai reçu autant de lettres courriels, courroucées, Armel, à propos de Vera au Théâtre de Paris, avec Karine Viard, Geneviève Gallois, scandalisée du conseil donné par Fabienne. Et Armel conseille d'aller voir Vera au Théâtre de Paris, qui est un mauvais spectacle, mal mis en scène, grossier, sans humour, et avec des comédiens mauvais. Marie Hessler, c'est une soirée et de l'argent gâché, une pièce extrêmement faible, pas drôle, interminable, et avec une Karine Viard très mauvaise. Quelle honte, Nicole Castelnau, comment avez-vous pu apprécier, les critiques du masque, cette mise en scène brouillonne, ce texte indigent, cette absence de cohérence, Pierre Cusor, un texte insipide et bête entre caméra, café et scène de ménage, une mise en scène gadget, les acteurs s'excusent presque d'être là, c'est à fuir, Bernadette Mallet, quand le metteur en scène en plus nous inflige la présence sur scène de deux caméramens entre les acteurs et le public, là, j'enrage, et Joachim de Paris, c'est la plus mauvaise pièce que j'ai vue depuis très longtemps. Le propos tient sur un ticket de métro, ah là là, que le monde du spectacle est superficiel et dur, et comme pour cacher cette vacuité de propos, les effets de mise en scène sont omniprésents, les acteurs sonnent faux, même Karine Viard ne parvient pas à nous intéresser à son personnage ou à nous émouvoir.
Alors, je l'ai recommandé, et Fabienne aussi, on ne l'avait pas encore revu au Théâtre de Paris. On l'avait vu l'année dernière aux Abbesses du Théâtre de la Ville. C'est une salle 10 fois plus petite, j'en conviens, que le Théâtre de Paris. Je maintiens que c'est une pièce très intéressante, c'est une pièce pragoise, très intéressante. Et lorsque je l'ai vue, Karine Viard et ses camarades étaient absolument formidables, et je ne peut pas croire que Karine Viard soit mauvaise. C'est une de nos meilleures actrices.
Non, mais je ne peux pas croire non plus que de recevoir autant de lettres ou de mails.
Oui, mais alors, quand tu en as trop, je me méfie. Ben justement, quand il y en a trop, je me méfie.
Non.
Je veux bien admettre que dans ce grand théâtre de Paris, ça soit beaucoup trop grand, mais je maintiens que c'est un... Allez. Je ne veux pas entendre que c'est une mauvaise pièce et que Karine Viard est une mauvaise actrice.
Une autre déception, il n'y a que du courrier déceptif. Une autre déception envoyée par Avril Sicot, qui a 16 ans, qui habite Marseille. Je suis allé voir la pièce Dîner en ville de Christine Angot, avec ma classe à la crier à Marseille.
Je le plains, le pauvre
enfant.
Et
c'est une succession de clichés sans aucun intérêt. Donc Jacques, vous pouvez rentrer chez vous. Et encore une déception tardive, celle-là va vous faire plaisir, de Martine Matignon, qui adhère complètement à la critique de Jacques Nerson sur Une chambre en Inde de Mnouchkine, que j'ai vue hier. Spectacle très décevant, confus, rempli d'évidence, envoyé avec peu de finesse. Bon, il y a les danses et la musique qui sont superbes et justifient le déplacement à la cartoucherie. Isabelle Morin, Olivier Durand n'ont pas davantage goûter un mois à la campagne de Tourguenieff, au Déjazet. Quand on a vu les Tchekhov de Benedetti, on ne peut que trouver d'une insondable platitude la mise en scène de Françon et d'un ennui mortifère la façon dont le texte est déclamé.
Mais qu'est-ce qu'ils ont? C'est parce qu'il faisait gris.
N'a qu'un registre qui est la tragédie larmoyante et tous les autres acteurs sont à l'avenant. Et pour finir, une ultime déception, elle est signée Guillaume Lhermitte. Et c'est à propos de Hard, de Yasmine Reza. Effectivement, cette pièce, nous dit-il, est un miracle. Je le pense pour l'avoir joué moi-même quand j'étais encore étudiant dans le rôle d'Ivan. Mais il juge que le fameux tableau n'est pas le chef-d'œuvre annoncé dans la pièce, mais, dit-il, un truc réalisé en 3 minutes par un accessoiriste. Bref, une croûte. Dès lors, les spectateurs prennent parti pour Marc. Ils sont venus se moquer de l'art contemporain. Quant à la mise en scène, elle est d'une paresse insupportable pour une si belle pièce et un casting si alléchant. Allez, sur ce, je vous aime d'amour. Continuez à me faire aimer la culture et longue vie au masque. Il n'y a pas d'autre déception, donc ça va, Armel.
Non, mais je ne sais pas, c'est bizarre. C'est rare que nos auditeurs soient si grognons. Et moi, je pense que c'est parce qu'ils faisaient moche et gris et triste.
Ils sont pas grognons, ils sont critiques, eux aussi. Et deuxièmement, je ne vous lis pas toujours le courrier qu'on reçoit.
Ah ben c'est dommage.
On commence avec Quelque part dans cette vie, c'est la pièce fameuse d'Israël Horovitz qui se donne au théâtre Édouard VII, adaptée par Jean-Loup Dabadi, mise en scène par Bernard Murat avec Emmanuel Devos et Pierre Arditi, qui est un peu une sorte de pensionnaire du théâtre Édouard VII. Et il est le vieux Jacob Brakisch, 81 ans, longtemps prof de littérature et d'histoire de la musique au lycée, et il vieillit seul. Il embauche une gouvernante garde-malade, qui est Kathleen, dont il ne sait pas encore qu'elle a été son élève, et c'est Emmanuel Devos. Et puis peu à peu, le vieux prof, qui est vraiment au seuil de la mort, va peut-être confesser ses regrets. Et ses remords, je le disais, on la connaît, on l'a vu plusieurs fois, monter et jouer. Dans cette version de Vos Arditi, qu'est-ce que vous en pensez, Jacques?
Ben effectivement, moi, c'est la troisième fois que je vois cette pièce. Et c'est beaucoup pour une seule vie, quoi, parce que franchement, c'est pas une pièce très passionnante, même quand elle était jouée par Pierre Dux et Jane Birkin, puis par Dufilo.
Elle est pas mauvaise, cette pièce.
C'est pas très intéressant. Ce vieux prof un peu ronchon qui...
Plus intéressant que Guigné en ville. Hein.
Bah, il met toute la pièce à comprendre pratiquement que la garde malade est une ancienne élève, et puis il va découvrir qu'il a été trop sévère, alors il va devenir un peu plus indulgent. On s'en fout un peu, quand même. C'est vraiment du très vieux théâtre. Je suis frappé. Bon, on sait tous que le théâtre privé a du mal à renouveler sa clientèle. On voit bien que c'est rempli de gens relativement âgés. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il prend à Bernard Murat? Enfin, c'est pas comme ça qu'il va faire venir des jeunes au théâtre.
Je rappelle que Bernard Murat, non seulement est le metteur en scène, mais aussi le directeur du théâtre.
Alors, Arditi, évidemment que c'est un merveilleux acteur, et Emmanuel Devos aussi, mais enfin, franchement, est-ce qu'il y avait besoin de le reprendre une fois encore?
Donc, vous vous en foutez, en fait.
Ah, complètement.
Mais c'est Emmanuel Devos qui rêvait de jouer cette pièce, et elle qui a voulu la jouer.
Peu importe. Peu importe, de toute façon, c'est un
tort.
Elle
a trouvé cette pièce intéressante.
Tellement bien.
Alors, qui l'a aimé?
Bernard Murat pouvait dire non.
Mais oui, moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir, parce que je suis pas du tout comme Jacques. Je trouve le texte assez fort. Je l'avais vu aussi, non, pas autant
vieille
que vous, mais je l'avais quand même vu avec Dux et Jane Birkin. Moi, je trouve le texte assez malin parce que d'une part, dès qu'il est dans le précipice du pathos, il y a toujours une volte-face ou un trait d'humour qui nous fait léviter. Et puis, le texte distille des informations ou presque des rebondissements ou des surprises vraiment au compte-gouttes pour qu'on ne comprenne que petit à petit ce qui lie ces deux protagonistes avec quand même des phrases très très dures. C'est-à-dire que quand ce vieux professeur demande à sa garde malade « Mais en fait, pourquoi vous êtes venu ?» et qu'elle lui lance les yeux dans les yeux « Je suis venu vous regarder mourir », il y a quand même des choses très fortes qui se disent. Moi, j'ai eu un grand plaisir à voir ce face-à-face de ces deux acteurs. Emmanuel Devos, elle est, comme
c'est
on sait...
C'est vrai qu'ils vont bien ensemble.
Espiègle, elle est pétillante, elle est imprévisible et donc un peu menaçante. Et puis Pierre Arditi, il n'en fait pas du tout 3 tonnes. Je trouve qu'il est assez juste.
C'est pas la première fois quand même qu'il n'en fait pas 3 tonnes et qu'il est
alors,
juste.
Alors, Armel et Vincent, Armel, vous avez aimé, vous?
Oui, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce spectacle. Je l'ai trouvé un tout petit peu long.
Parce qu'il y a une fausse fin. Il y a une fausse fin dans le texte.
On aurait pu peut-être réduire un tout petit peu, parce que ça fait 2 heures complètes. C'est un peu long pour une situation
pour
qui n'évolue pas énormément.
Ouais. Oh non,
pas pour ne rien
dire,
pour qu'on ait le plaisir d'une histoire, parce qu'il y a une histoire.
Oui, oui,
c'est
oui,
pas
oui,
seulement son ancien élève, il y a la mère qui est derrière, il y a
ce que... Vous racontez la fin.
Oui, là, je
mais
suis
non,
en train de...
Je ne raconte pas la fin, c'est pas ça du tout.
Il ne faut pas en dire plus, franchement, Armel. Non, c'est pas la peine. Tout le monde l'a pas vu, c'est pas la peine d'en dire plus, non, c'est vrai.
Bon, en tout cas, c'est bien. C'est voilà, bien. Je dis rien d'autre. C'est deux grands acteurs formidables.
Deux très très bons acteurs. Je savais pas qu'Emmanuelle De Vos voulait jouer ce rôle.
Si,
elle le tient très bien parce que c'est un personnage
c'est pour ça que ça a été monté.
Assez mystérieux, assez ambigu, qui doit jouer un peu la sotte au départ et finalement s'avérer extrêmement et redoutablement intelligent.
Pas la sotte, la candide, je dirais.
La candide, oui, un peu simple.
Et
ce qu'elle n'est pas. En revanche, je suis assez d'accord avec Jacques sur l'argument que je trouve assez banal, assez faible. Le vieux professeur Bougon est pervers et la victime, puisqu'elle se révèle une victime. On comprend très vite et je trouve que effectivement le temps passe et nous on a compris, même si Arditi n'a pas compris. Donc la pièce n'est pas passionnante, assez monolithique je trouve, en tout cas dans la couleur des personnages, mais ils réussissent à en faire quelque chose. Et Murat aussi, je trouve que dans ce lieu
et
ce huis clos,
il
se débrouille très bien.
Monolithique, il y a quand même, enfin, il y a un humour, il y a l'humour Horowitz qui est quand
oui,
même
mais
là.
Au bout d'un quart d'heure, tu sais ce qui va se passer.
On a dit l'essentiel sur quelque part dans cette vie, c'est au théâtre Édouard VII, et c'est la pièce d'Horowitz, Les Inséparables. C'est une pièce de Stéphane Archinard et de François Prévost-Légoni. C'est mise en scène par Ladislas Chola. Alors lui, c'est un cumulard, hein. Il est nommé au Molière et pour cette pièce. Et aussi pour le fils de Florian Zeller, dont on parlait il y a quelques semaines. Et c'est avec Didier Bourdon, Valérie Carcenti, Thierry Frémont, Pierre-Yves Bon, Élise Diamant. Bourdon, c'est Gabriel Orsini, un peintre célèbre, né de père inconnu et orphelin de mère. C'est beaucoup, et donc il traverse une crise profonde, il déprime, on peut le comprendre. Et malgré le soutien de son galeriste, qui est assez fidèle, c'est Thierry Frémont, bah, il ne peint plus, et il ne supporte plus sa compagne, ni le fils qu'il a eu d'un premier mariage, et qui est devenu trader à New York à la veille de ses 50 ans. Il reçoit, Gabriel, un cadeau tout à fait inattendu d'une inconnue, c'est Valérie Carcenti. C'est un atelier, moi je l'aurais bien accepté,
oui,
un atelier d'artiste situé entre Montparnasse et Saint-Germain-des-Prés, et un cadeau qui va, et là, c'est pas très original ni très neuf, qui va lui offrir de remonter dans le temps, Vincent.
On n'échappe pas au cliché, hein. On a vraiment l'artiste qui souffre, l'artiste qui ne réussit plus à peindre, comme tu le disais, et qui donc forcément est misanthrope. Il n'a pas été aimé par son grand-père.
En plus, il faut déjà imaginer Didier Bourdon en peintre.
Ça demande un effort
c'est pas évident.
Premier effort, mais il y a
c'est
d'autres
pas,
efforts
c'est pas
à
évident.
Faire.
Son grand-père était méchant, donc il est méchant avec son fils. Il a réussi à rendre très cultivé et amoureux de l'art quelqu'un qui ne l'était pas au départ, qui est devenu son galeriste. Le galeriste, forcément, est homosexuel. Forcément, un homosexuel vit avec un chat. Et forcément, Thierry Frémont, qui est un excellent acteur, se met à jouer un peu les efféminés. C'est pas la peine. Pourquoi est-ce qu'on lui demande de faire
tous
ça?
Tous les galeries sont homosexuels.
Tous les galeries sont
bien.
Et ils vivent avec des chats uniquement. Donc, on est lassé de cette accumulation de clichés, mais je trouve qu'il y a quelqu'un de très très bien dans la pièce. C'est Valérie Carcenti. Je trouve que c'est le personnage le plus intéressant et l'interprétation la plus fine, parfois même émouvante. Un second rôle qui est bien présent dans la pièce.
Pour le coup, c'est du point de vue presque romanesque
et
énigmatique. C'est un rôle intéressant.
Bien sûr. Et elle s'en tire très très bien. Donc je retiens Valérie Carcenti et j'oublie le reste.
Armel.
Vincent a tout dit.
Non, il n'a pas raconté la fin.
Non, il n'a pas raconté la fin. Je raconterai pas non plus. D'ailleurs, je ne m'en souviens pas, pour tout dire. Mais c'est vrai, je suis sincère. Et moi, j'ai été frappée par cet énorme décor qui ne sert absolument à rien.
Une tournette.
Une tournette magnifique qui a dû coûter très très cher, c'est très beau d'ailleurs, mais ça ne sert à rien, ça n'apporte rien à la pièce, même si on passe d'une époque à l'autre, ça n'apporte rien. Moi j'aime beaucoup Didier Bourdon, je trouve que c'est un très bon acteur, il cherche son personnage parce que c'est pas écrit d'une façon excellente, faut bien le dire. Je ne connais pas les autres. Mais c'est vrai.
Il cherche, mais il trouve
pas. Non, c'est ça.
Prévost-Légoni, on a vu des choses de lui déjà, mais pas Stéphane Archinard.
Et non, c'est vrai que Valérie Carcenti est très bonne.
Hein,
mais bon, oui,
pas,
allons vite.
Charlotte.
Comme la tournette.
Quand même, on devrait être ému de cette histoire, et on ne l'est absolument pas. Didier Bourdon, donc, a un double rôle, on ne l'a peut-être pas dit, cette ce peintre quinquagénaire dont vous parliez, mais aussi son grand-père, puisque toute la pièce est un aller-retour sur deux temporalités.
Donc, d'où la tournette.
Bah oui. Voilà, d'où la tournette.
Un peu lourde.
Et le problème, mais c'est vraiment un très gros problème, c'est que les clés sont données au spectateur avant d'être données au personnage. Donc le spectateur a toujours une longueur d'avance sur les personnages, sur le pourquoi du comment. Donc c'est pour nous archi prévisible. Et en même temps, il y a des ellipses hallucinantes dans cette histoire qui font qu'on ne comprend rien au revirement de de relations. Pourquoi ils s'aiment, pourquoi ils se détestent, pourquoi ils ont des rapports difficiles.
On cherche pas tellement à comprendre.
Moi j'ai cherché à comprendre et ça m'a vraiment manqué.
On sent qu'il y a un gros traumatisme originel et qu'à partir de ça, il faut trouver une solution.
Oui, mais alors pourquoi son fils qu'il n'a pas vu depuis 2 ans, avec qui il a des rapports extrêmement tendus, tout d'un coup à la fin, pof, on sort le champagne.
Non, on sort pas le champagne à la fin. On ne sait même pas ce qu'on sort à la fin.
Tu as du temps à perdre de te poser ce genre de questions.
Mais je me suis posé les questions. Moi, les relations entre ces personnages, on ne les comprend pas.
Ouais. C'est une pièce bâclée. Moi, j'ai l'impression de regarder un feuilleton de FR3 l'après-midi dans un moment de déprime.
Maintenant, on dit France 3. Hein. Oui. FR3, c'était il y a longtemps.
Mais oui, mais c'était de mon temps.
Maintenant, c'est France 3.
C'était de mon temps. C'est complètement affligeant. C'est ni fait ni à faire. C'est un très mauvais scénario. Bourdon, je suis désolé, je trouve pas que ce soit un grand acteur de théâtre jusqu'ici. Il était peut-être très bien dans Les Nuls, mais pas
Les Inconnus, Jacques. Les inconnus. C'était du temps de l'ORTF, souvenez-vous.
C'était pas sur Antenne 2, d'ailleurs.
Non, c'était l'ORTF.
Mais bon, voilà. Puis même Valérie Carcenti, qui on sait bien que c'est quand même une bonne actrice, on l'a vue depuis longtemps, on peut pas dire qu'on la découvre. Thierry Frémont, je comprends pas pourquoi il accepte un rôle aussi inintéressant, alors que lui aussi, c'est véritablement un grand acteur. Donc c'est vraiment du temps perdu.
On parle bien de Thierry Frémont, le comédien, et pas Thierry Frémont,
le patron de Cannes.
Délégué général du Festival de Cannes. Donc voilà, c'est Les Inséparables. Vous allez courir donc au théâtre Héberto pour aller voir cette pièce d'Archinard et Prévost-Légoni. Allez, on passe à du sérieux, peut-être un peu plus verbeux, mais bon. C'est Faust de Goethe, présenté au Vieux Colombier dans la traduction de Gérard de Nerval. Et oui, c'était Nerval qui avait traduit ce Faust-là. Ça va se jouer jusqu'au 6 mai, donc, au Vieux Co. Et c'est l'histoire légendaire du docteur Faust, ce vieux savant qui vend son âme au diable, avec qui il passe un pacte afin, comme essaye de le faire parfois Jacques, de recouvrer sa jeunesse. Mais c'est en enfer qu'il va être précipité. C'est mis en scène et en magie, très important, et en magie, par Valentine Losso et Raphaël Navarro, avec tout ce qu'il faut de marionnettes, d'hologrammes, de boules de feu, de choses que je serais d'ailleurs incapable de décrire même.
De lévitation.
À la radio, parce que c'est pas évident. Et c'est avec Laurent Natrella en Faust, Christian Eck, que j'adore toujours, quoi qu'il fasse, en Méphisto, Anna Servinka en Marguerite, Benjamin Laverne et Véronique Vella, une pièce qui date de 1808, et si j'ose le dire, ça se sent un peu. Jacques, qui était d'ailleurs à la création.
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ?
Et même aux répétitions, d'ailleurs.
Oui.
Mais j'ai jamais beaucoup aimé cette pièce.
Vous non plus.
Je trouve que, évidemment, le thème est passionnant. C'est pas Goethe qui l'a inventé. C'était le thème d'une légende.
Je crois.
C'est en voyant, d'ailleurs, une représentation de marionnettes qu'il a eu l'idée d'écrire son Faust. Mais je trouve que théâtralement, c'est pas très bon. Chaque fois que je l'ai vu représenté, je me suis ennuyé. Là, malgré les effets de magie somptueux qu'on peut voir.
Subtil, je dirais.
Hein. Remarquablement fait. Mais en dehors de ça, c'est très ennuyeux. Il n'y a que les tours de magie qui sont bien. Donc, on aimerait que la représentation dure beaucoup moins longtemps. Enfin bon, j'avoue que j'ai pas été.
Et peut-être qu'ils auraient pu un peu couper dans le texte.
Ils ont coupé. Ça dure 8 heures quand c'est joué en entier.
C'est vrai.
On l'avait vu chez Daniel Benoît.
Non, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que quand on joue l'autre partie.
La nuit de Valpurgis et tout ça.
Je pense surtout que la beauté.
Donc,
le film La Beauté du Diable est 100 000 fois mieux que tout ce que j'ai vu au théâtre à propos de Faust.
Il n'a pas tort pour le film. Vincent ?
On l'avait vu il y a une vingtaine d'années à la Comédie Française, montée par Alexander Lang, et je m'étais ennuyé beaucoup.
C'était terrible, Alexander Lang.
Et là, finalement, je suis resté à la porte. Je trouvais que tout était très loin de nous. D'abord, la langue, traduite par Nerval, c'est une langue que je trouve, quand elle est représentée sur scène, peut-être quand tu la lis, c'est bien, mais quand elle est sur scène, elle est datée, elle est surannée. Laurent Natrella m'a pas semblé incarner un Faust dont on se souviendra pendant des années.
Christian Eck est bien.
Christian Eck est toujours bien, tu le disais.
Jenny Nico, tout le monde.
Il a du génie. Et puis j'ai trouvé que ces deux metteurs en scène, qui sont des illusionnistes
non,
d'abord,
ce sont
des
intellectuels et des artistes.
Peuvent aller plus loin. J'ai trouvé un petit peu timide en me demandant s'ils n'étaient pas intimidés par le lieu, la Comédie française.
C'est le vieux Colombier, c'est pas intimidant.
En tout cas, je ne trouve pas qu'il y ait des effets aussi merveilleux que ceux que vous avez cités. Il ne m'en reste pas beaucoup à l'esprit. Et c'est un spectacle que j'ai oublié très vite.
Par la pesanteur de certains personnages.
Je m'interroge sur la représentation de ce texte, en fait. Est-ce qu'il est représentable ?
Armel ?
Moi, j'ai beaucoup aimé ce spectacle. Mais vraiment, je l'ai très bien pris. Alors peut-être, je suis allée comme une petite fille, un dimanche en matinée, disponible.
Il y a peu de petites filles en matinée
du tout, au pas
théâtre.
Fatiguée du tout, très disponible.
Et vous n'y êtes pas allée avec vos grands jeunes, non ?
Non. Et moi, j'adore ces deux artistes que sont Valentine Losso et Raphaël Navarro. D'ailleurs, ils vont être dans quelques jours pour tout un cycle de magie nouvelle au rond-point. Mais surtout, ce sont deux êtres d'une intelligence et d'une acuité, d'une sensibilité exceptionnelles. Ce ne sont pas du tout seulement des magiciens. Elle, par exemple, elle est spécialiste des langues mayas en plus. Enfin, ce sont deux gamins qui se sont rencontrés au lycée de Rouen. Mais si, parce que c'est pas des magiciens qui font de la mise en scène. Ce sont deux artistes exceptionnels. Moi, je voudrais remercier aussi les professeurs du lycée de Rouen qui ont éveillé ces deux-là, comme deux ans avant eux, Thomas Joly. C'est vraiment, ils aiment le théâtre depuis qu'ils sont petits.
Mais
grâce
Armel,
à leur
on
prof.
Est d'accord avec vous.
Et
hein,
moi, j'ai adoré ce spectacle.
Vous ne trouvez pas le texte un peu
Non, j'ai trouvé le travail formidable. Non, parce que j'ai tellement souffert. Justement, Alexander Lang, c'était épouvantable. Moi, j'avais beaucoup aimé, mais c'était il y a 35 ans, la mise en scène de Daniel Benoît. On restait deux jours à Saint-Étienne. C'était Bernard Fresson. C'était vraiment
deux jours
très beau.
Entiers.
Oui, bah parce qu'il fallait.
Et vous dormiez où alors ?
Dans un hôtel, je ne sais
bon,
plus.
Ah bon, pas dans le théâtre.
Et mais Jacques, il doit s'en souvenir.
Même, je me souviens aussi du fausse de vitesse que j'ai trouvé très ennuyeux.
Oui, vous sortez tout nu de sa cage, là,
oui,
mal.
Ça, vous citez la seule chose
amusante. Non, moi j'aime beaucoup. Moi je suis heureuse que ça soit la traduction de Nerval. Goethe, il aimait beaucoup la traduction de Nerval.
Il trouve qu'il n'aimait pas le théâtre.
Oh, mais arrêtez, laissez-moi parler. Et je trouve que tous les acteurs sont formidables, mais tous.
Non, je suis
Anna
pas
Servinka,
d'accord.
Que j'adore, elle est magnifique. Ils sont bien parce qu'ils arrivent à tenir le pari de la magie qui est absolument incompréhensible. C'est vraiment magique, quoi. Et en même temps, ils jouent, ils incarnent les
personnages.
Charlotte
Lipinska.
Alors, moi, je n'étais pas à Saint-Étienne avec Armel et j'allais vraiment pleine d'appétit et d'émerveillement voir ce spectacle parce que j'aime énormément le travail de la compagnie 1420, qui est donc la compagnie de ses metteurs en scène. C'est vrai que les effets de magie nouvelle sont stupéfiants. C'est extrêmement beau, c'est surprenant. Il y a des effets scéniques qu'on ne voit jamais. Du coup, il y a quand même toujours une petite voix intérieure qui nous chuchote, mais comment ça marche ? Et ce qui nous éloigne encore plus du texte, parce que c'est vrai que le texte, il est quand même assez impossible, très difficile à suivre, et je trouve qu'on est tellement ébahi par ces effets que l'esprit divague, on est ailleurs,
là,
et moi je m'éloignais encore plus du texte.
Beaucoup
par
resserré.
Ailleurs, Christian Eck est un génie, c'est une chose, il est absolument dément dans l'aisance avec son corps, dans sa drôlerie, dans son burlesque, et c'est un Méphistophélès extraordinaire, mais tellement génial que pour moi ça déséquilibre complètement le spectacle, c'est-à-dire que ses partenaires sont pas du tout à sa hauteur. Et c'est l'une des premières fois que je vois à la Comédie française un spectacle où il y a un acteur qui surplombe tous les autres et qui, à mon sens, déséquilibre un peu l'ensemble.
Il fait le méchant.
Oui, mais à côté, il est un peu fallo quand même. Oui. Alors, moi, je vous rejoins, j'ai trouvé ça extrêmement long, même si cette tentative d'intégrer la magie nouvelle dans un spectacle véritablement de théâtre est extrêmement intéressant, mais ça n'est qu'à moitié réussi.
C'est la première fois qu'on voit de la magie sur cette scène du Vieux Colombier.
Oui.
Faust de Goethe, donc, présenté au Vieux Colombier. Alors, la salle Richelieu, donc, à la Comédie française même, c'est l'éveil du printemps d'un autre Allemand, Frank Wedekind. 1864, Jacques, 1918.
Oui.
Sous-titré avec humour, bien sûr, une tragédie enfantine. La pièce qui entre au répertoire et dure quand même 2h40-45. Hein.
On est près des 3 heures.
Deux heures moins le quart.
On va pas se battre pour 10 minutes.
Mettre en scène des adolescents qui sont confrontés, comme Vincent Josse, à un corps qui se métamorphose. Et l'éveil du titre, c'est celui des premiers désirs de la sexualité naissante. Et je ne veux pas en dire plus. Comment en même temps arriver à se frayer un chemin vers le monde forcément austère, rigide, morale. Des adultes, alors pas étonnant d'ailleurs que cette pièce, tenue à sa création pour pornographique, hein, oui. Je dis bien pornographique, étant passionné Sigmund Freud, puis Jacques Lacan, qu'on oublie parfois. Et elle est montée donc à la Comédie Française par Clément Hervieux-Léger, grand admirateur, je dirais presque nostalgique, de Patrice Chéreau, scénographiée par Richard Peduzzi, avec, alors, la jeunesse du français, je dis bien la jeunesse du français, c'est pas l'adolescence du français, hein, elle y est pas, mais la jeunesse, je les cite vite, Georgia Scaliette, Sébastien Poudroux, Christophe Montenez, Rebecca Marder, Pauline Clément, Julien Frison, Gaël Camille Indy, Jean Chevalier, Mathieu Astre, Juliette Dami, Romain Goupil et Alexandre Chorderet. Les adultes, on les connaît tous, hein, c'est vraiment la troupe du français, de Favoris jusqu'à Bakary Sangaré. Cet éveil du printemps, évidemment, il faut qu'on le sente sur scène, dans les corps de ces jeunes comédiens. Est-ce que vous l'avez, vous, senti, Armel ?
Alors moi, c'est difficile parce que j'adore cette pièce. Je crois que si on me demandait quelle est votre pièce préférée, je dirais l'éveil du printemps. Ah oui, j'adore cette pièce. Oui, je trouve qu'elle parle, elle est 1890, elle nous parle. Moi, en tout cas, elle me parle, Je m'y reconnais, je sais pas dans quoi, dans Wedekind, dans cette ultra sensibilité, ultra lucidité qu'il avait et cette manière qu'il a de parler de cet âge impossible qu'est l'adolescence et puis du malaise des adultes, de leur désarroi, et puis de cette accumulation de tragédies enfantines, pas du tout, c'est, je veux pas raconter ce qui s'y passe pour ceux qui connaissent pas la pièce, mais elle est terrible. Alors, Clément Hervieux-Léger, là, je trouve qu'il réussit un spectacle un peu trop sombre à mon goût dès le départ. C'est-à-dire, je vais pas tout raconter, mais d'abord, la scénographie de Peduzzi, elle est funèbre, très funèbre,
austère, hein,
oui. Avec les lumières de Bertrand Couder qui sont aussi légèrement lugubres. Il y a le printemps dans la vitalité, dans les scènes de groupe, quand ils courent après leur ballon, quand ils se courent après. Mais ils donnent tout de suite la couleur. La première scène, c'est quand même un tombeau. C'est une dalle mortuaire dans un tombeau. C'est un lit, normalement. Mais on voit Juliette à travers Georgia Scaliette. Mais je le répète, moi j'aime tellement cette pièce, elle me passionne tant. J'ai trouvé que c'était un tout petit peu long parce qu'il a rétabli toutes les scènes que d'habitude on coupe, les scènes de masturbation en particulier. On voit jamais la faiseuse d'ange qui vient à la fin et qui causera la mort d'une des héroïnes. Enfin, non, mais ça c'est pas la fin, excuse-moi.
C'est pas la fin, mais vous racontez quand même un
tout
peu.
Tout le monde connaît l'éveil du printemps, c'est une tragédie.
Non,
mais j'en ai marre, on n'est pas chez les idiots, on peut raconter la fin d'un film ou la fin d'une pièce et que les gens la goûte quand même s'ils y vont. Je pense qu'on peut raconter.
Armel,
on connaît la fin de Phèdre.
On se calme,
je connaissais pas la fin de. Mais si, je m'énerve parce que elle me fait des grimaces.
C'est pas une grimace, mais c'est dommage
de Fabienne Pascaud.
C'est dommage de révéler ça.
Il y a deux camps.
Mais arrête.
Chez nos auditeurs.
J'ai dit la mort d'une des héroïnes. Il y en a 10 des filles sur le plateau.
Ils ne supportent pas qu'on raconte la fin. Et ceux qui considèrent que de raconter la fin n'empêche pas d'apprécier le film, la pièce ou le livre.
Moi, en tout cas,
ma théorie, qui est juste celle de celui qui en a parfois marre de recevoir du courrier, c'est qu'il vaut mieux ne pas raconter les fins pour que je n'ai
pas raconté,
après à gérer
raconté.
Un courrier volumineux. Allez, Jacques.
En tout cas, c'est un magnifique spectacle avec une troupe exceptionnelle.
Je partage le point de vue d'Armel sur la pièce. C'est une pièce que je trouve géniale, vraiment géniale. Je pense cependant que c'est une pièce qu'on doit couper. C'est pas forcément des scènes entières, mais il y a des tirades qui ont un peu vieilli dans la forme. Notamment, il y a tout un côté bucolique, les beaux arbres, la belle rivière, le beau coucher de soleil. On pourrait s'en passer. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. En revanche, ce qu'il y a de génial, alors pas seulement dans la forme, mais dans le propos, c'est de prendre en considération, je crois que c'est un des premiers auteurs à le faire, l'adolescence. Parce que jusque-là, l'adolescent n'existe pas. On a des enfants qui deviennent des grandes personnes.
Bien avant Florian Zeller.
Et ça, je trouve que c'est magnifique et on comprend que évoquer des sujets comme effectivement, vous avez parlé de l'avortement, la masturbation, etc., ça a choqué profondément l'Allemagne protestante de l'époque.
l'époque.
Vous avez raison, mais moi, j'ai pas eu le sentiment de comprendre non plus pourquoi cette pièce avait à ce point choqué.
Parce qu'elle a alors, pour le problème,
c'est que la mise en scène, moi, me paraît très sage.
Bah oui.
Alors, il est vrai que la pièce pose un problème qui est presque insoluble, c'est cette histoire d'adolescence. Il faudrait que ce soit des gens qui ont de 14 ans qui jouent
cette pièce. Ils sont quand même assez étonnants. Hein.
Quand je vois, non, et ce sont de très bons acteurs, c'est pas la question. Mais quand je vois un acteur comme Sébastien Poudroux qui joue le rôle principal, celui de Melchior, mais c'est plus qu'un adulte. Enfin, on voit bien, il a une carrure, il est absolument pas fait pour ça. Et évidemment, ça tue la violence de la pièce.
Bien pourtant.
Si c'est joué par des adultes. En plus, il y a un décor, vous l'avez dit, écrasant et qui ralentit beaucoup le rythme parce qu'il y a des changements. Chaque fois qu'il y a un changement de tableau, les tourelles bougent, etc., ça met un temps fou à se mettre en place. Et donc, la représentation ne m'a pas emballé. Il y a des années, en 82, il y avait un jeune metteur en scène qui malheureusement n'a pas vraiment éclos, qui s'appelait Gilles Glaise, que vous connaissez tous ici, qui avait fait une représentation très simple et qui était beaucoup plus forte.
D'accord.
Que ce que nous avons vu.
Paul Desvaux aussi en avait monté un formidable. Voilà.
Alors, le jeune Vincent.
Moi, j'avais jamais vu la pièce interprétée, et donc j'étais saisi par l'intérêt historique, le document presque qu'elle représente, cette pièce sociologiquement, historiquement, cette audace de cet homme qu'on a dit obscène, hein. Je crois qu'on a parlé d'une obscénité absolue, d'une insanité.
Elle a été censurée,
hein. Oui, censurée. Elle a été censurée. Donc, quel courage en 1890 de parler de ce qui nous semble évident aujourd'hui.
Elle a nourri le travail de Freud, je me rappelle.
Effectivement, ce ton gris dès le départ m'a un petit peu gêné. Je trouvais qu'il y avait aussi de la part de Clément Hervieux-Léger beaucoup de respect, certes, du texte, mais un côté un petit peu sage. J'avais envie de moments un peu plus débridés, un peu plus culottés, hasardeux. J'étais heureux de voir la jeune troupe, même s'ils n'ont pas l'âge du rôle, comme le dit Jacques. Ça ne m'a pas, moi, dérangé. Je trouvais Poudroux très bien.
Très
terrien. Donc, j'étais heureux de voir cette troupe, mais peut-être un peu trop sage, avec aussi toujours une sorte d'amour fou pour Chéreau, qui, alors que Clément Hervieux-Léger a évidemment du talent en tant que metteur en scène, il faut peut-être qu'un jour, je vais être violent, mais qu'il tue le père.
Il est vraiment en ombre portée sur le spectacle.
Oui, Richard Peduzzi. Richard Peduzzi compare un peu le spectacle à la dispute de Chéreau, parce qu'il y avait aussi des adolescents qui découvraient la sexualité dans la dispute.
Mais
qu'est-ce que c'était plus violent, plus sensuel,
sans cette figure tutélaire.
Je suis d'accord sur la dispute.
Charlotte. Je rejoins Vincent, effectivement, sur le côté un peu sage. Et moi, ce qui m'a manqué... Alors, évidemment, la pièce, elle est fascinante, elle est extrêmement audacieuse, elle m'a passionnée. Je l'avais vue, mais très traficotée, adaptée. Donc là, j'étais heureuse d'avoir vraiment le texte, même si je rejoins Jacques, ça mérite quelques coupes. Ce qui m'a gênée, c'est que, dès le début du spectacle, on est dans cette atmosphère un peu mortifère, avec des lumières totalement lugubres, crépusculaires, grisâtres.
On est dans le gris, absolument.
Oui, mais du gris du début à la fin est sur le même ton. Et du coup, je trouve qu'on ne sent pas chez ce groupe d'adolescents la sève qui monte, la vitalité,
Elle fait les gestes.
La fièvre qui s'empare de leur corps. C'est-à-dire que dès le début, ils sont un peu anesthésiés, corsetés, contraints par cette chape de plomb. Et la rigidité des structures familiales ou sociétales dans lesquelles ils évoluent, elle est là dès le début. Donc du coup, la chute, on va dire, générale, ou la désillusion que vont avoir ces enfants, on la pressent dès le début. Et du coup, moi, ça m'a un peu coupé l'émotion d'être sur cette tonalité un peu atone et grisâtre, même si effectivement les comédiens sont
fabuleux. Il y a une actrice qu'il faudrait quand même citer, c'est Clotilde Bézère, que je trouve
magnifique, franchement.
Comme d'habitude.
Et les scènes avec Éric Genovese, son mari, c'est magnifique.
Ça fait 15 ans que vous nous dites que c'est votre grand amour, Clotilde de Bézère. Absolument, elle est très bien. C'est donc l'éveil du printemps, c'est à la Comédie Française, et là ça va se jouer, je crois, jusqu'au mois de juillet.
Jusqu'au 8 juillet.
Voilà. Et maintenant une pièce qui n'a rien à voir, mais qui cartonne, qui est d'ailleurs nommée pour le Molière de la comédie. C'est Deux mensonges et une vérité, c'est pas du Wedekind, c'est du Sébastien Blanc. Et Nicolas Poiret, le fils de Jean Poiret. Et c'est mis en scène par Jean-Luc Moreau au Théâtre Rive Gauche avec Lionel Astier, Raphaëline Goupillot, Frédéric Bourali et Julien Kirsch, ainsi qu'Esther Moreau et Philippe Mema, pour une histoire qui n'est pas vraiment neuve. qui est celle du couple marié depuis 27 ans, qui joue à se surprendre et avec une règle, là en l'occurrence, c'est que chacun doit livrer à l'autre deux mensonges et une vérité, dont le titre est distinguer le vrai du faux. Le couple, c'est Philippe, qui est avocat, donc il y a l'éloquence, joué par Lionel Astier, et Catherine, interprétée par Raphaëline Goupillot, un duel qui est arbitré par leur ami commun, Édouard, et c'est Frédéric Bourali.
Charlotte. Comment dire ? Alors, moi,
ça cartonne, hein, encore une fois.
Oui, ça cartonne. Et je le dis tout de suite, quand j'y suis allée la semaine dernière, la salle était pleine, le public riait aux éclats. Oui. Ça marche vraiment. Ouais. Moi, je suis restée totalement hermétique, mais encore une fois, j'aime bien le boulevard. Moi, vraiment, je boude pas mon plaisir. Il faut aussi savoir apprécier un bon boulevard, des bonnes mécaniques, des bonnes répliques. Et là, j'avoue que les bras m'en tombaient, quoi. C'est-à-dire, je trouve l'humour extrêmement poussif, balourd. Et ce genre de spectacle de comédie repose quand même généralement beaucoup sur l'abattage des comédiens, qui peuvent en faire effectivement un peu des kilos, mais c'est pour ça qu'on aime les voir. Et là, je trouvais la distribution très, très inégale. C'est-à-dire qu'il y a deux jeunes comédiens qui sont quand même vraiment totalement transparents. Donc, on est ou dans un jeu outré ou dans un jeu transparent. Bon, voilà, après le public aime ça, tant mieux, hein, il faut l'admettre, mais moi, c'est pas ma came.
C'est la première pièce du fils de Poiret ou pas ?
À ma connaissance, oui.
Mais... Oui, moi, je crois que oui.
Et Armel ?
Mais je suis un petit peu d'accord avec Charlotte.
Est-ce que vous avez ri ?
J'ai ri pas tant que ça.
Eh oui.
J'ai ri grâce
aux acteurs.
C'est
déjà pas mal.
Non, mais si vous voulez, ce sont les acteurs, je les aime beaucoup, ils m'ont fait rire. Mais je trouve la pièce elle-même un petit peu laborieuse tout de même. J'avais tellement entendu parler de cette pièce avant d'aller la voir que j'attendais quelque chose de beaucoup plus léger, caustique.
Mais c'est léger, mais c'est que moi j'ai eu le sentiment d'un sujet mais tellement rebattu,
qui m'a le plus gêné. Voilà, par exemple, Raphaëline Goupillot, je l'aime, oui, je l'admire, je l'adore. Et rien que pour elle, j'étais heureuse d'être là, mais elle peut jouer des pièces tellement plus vives. Parce que c'est ça, moi j'ai eu quand même le sentiment de quelque chose d'un petit peu laborieux.
C'est poussif et c'est très attendu.
Jacques.
Ouais. Bon, je suis du même avis, je n'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Mmh. Quoi. C'est un boulevard de très médiocre qualité. Moi non plus, je ne suis pas du tout contre le boulevard, au contraire. Mais là, les acteurs ne sont pas absolument formidables non plus. C'est Astier, qu'on a découvert récemment grâce au feuilleton Kaamelott.
Rapide d'ailleurs.
Mais il est vraiment très, très lourdingue. Mmh.
Comme la
même
pièce.
un peu gênant, l'adore. il est il joue de façon assez vulgaire. Je ne sais plus si c'était sur FR3 ou
Antenne 2
ou sur le RTF.
C'est toujours on ressort pas heureux d'un spectacle où on voit tout le monde, enfin beaucoup de gens rire et applaudir en permanence.
C'est toujours un peu gênant parce qu'après on passe pour les pisses.
Oui, c'est ça, pour les bagels.
Mais est-ce que ce monsieur Astier, il est une vedette de la télévision?
Oui, avec le feuilleton Kaamelott.
Le feuilleton Kaamelott, qui est réalisé par son fils.
On l'entend à la TSF parfois et souvent.
Non, mais c'est pour ça, parce que.
Il y a des comédiens de la série Scène de ménage aussi.
J'ai pas envie d'assassiner cette équipe qui est outrancière, qui en plus.
Je comprends.
La morale de la pièce est vraiment bébête, quoi. Soyez gentil avec votre femme, attention à ne pas la vexer, la blesser. C'est ça que ça veut dire. Bon, d'accord.
Il y a des scènes interminables.
Faut pas dire à sa femme qu'on s'ennuie avec elle au bout d'un moment, que tout est banal. Non, il faut renouveler l'amour. Voilà.
À mon avis, je pense
qu'on aura
que ça
des
va
lettres.
Avoir un Molière. Hein.
Oui, non, c'est
sérieux, hein, de la comédie.
Les Molières en sont bien capables.
Et une vérité, oui, c'est vrai. Et c'est donc au théâtre Rive Gauche. Allez, de Philippe Mignana, l'auteur de La Maison des Morts et d'une femme, une actrice. C'est mise en scène par le dramaturge Pierre Note au Poche Montparnasse. C'est l'actrice qu'un écrivain, c'est Pierre Note, rencontre pour écrire sa biographie, mais elle freine des cas de fer parce qu'elle ne veut pas être embaumée. Ça me rappelle le mot que me répétait tout le temps Barbara, si on veut me prendre, c'est vivante. Eh bien, cette actrice, c'est la grande Judith Magre que seul, je cite, le présent intéresse, ce qui n'empêche pas celle qui est née, je vous le rappelle, en 1926, d'évoquer notamment ses rencontres avec Céline, Sartre, Beauvoir, Giacometti, Marcel Aimé, Aragon, et de nous raconter qu'elle a refusé de chanter de Rezvani, J'ai la mémoire qui flanche, ce qui a profité à une autre. La sienne ne flanche pas, et le tout est ponctué par trois chansons interprétées au piano par Pierre Note, je ne connaissais pas ce talent-là, et chantées par sa sœur Marie Note. Jacques.
Écoutez, on est gêné un peu pour parler de ce spectacle. Pourquoi? Parce qu'il est interrompu en ce moment. Il va reprendre à partir du 20 mai.
Ah bon?
Parce que Judith Magre est tombée malade.
Ah, je ne savais pas.
Et alors, d'autre part, le soir où je l'ai vue, j'ai trouvé qu'elle était complètement perdue. Elle s'embrouillait dans le texte. On la sentait un peu égarée. C'était très, très gênant. Puis c'est un texte étrange. C'est pas un texte, d'ailleurs. C'est des bouts de choses bizarres qui n'ont rien à voir. Il y a un petit morceau d'un texte que Mignana avait déjà écrit il y a quelques années, qui est pas mal, d'ailleurs, du tout. Un assez beau monologue. Et puis, après, alors que ça n'a rien à voir, on passe à une espèce de vraie-fausse interview de Judith Magre.
Par Pierre Note.
Par Pierre Note, mais qui est très décevante, cette interview.
Mais à mon avis, qui est fondée sur l'idée qu'a dû avoir Note de vouloir faire un jour un livre sur elle, non?
C'est
mais
possible,
écrit par Mignana.
Voilà. Et pas oui, bien, par sûr,
voilà.
Bien sûr.
Voilà, mais de toute façon, écrit, c'est à peine écrit. Et qu'est-ce qu'elle raconte là-dedans?
De l'anecdote.
Rien.
De
c'est-à-dire qu'elle a elle fait du nomming, comme
elle. Mais on l'aime, Judith Magre.
Mais oui, on l'aime, mais oui, seulement quand elle dit de Giacometti, il avait de belles mains et j'ai mangé des nouilles avec lui à la coupole, on se dit,
que l'intervieweur est mauvais.
Non, il y a quelquefois des gens qui ne veulent pas répondre vraiment à des interviews. Je pense que c'est son cas.
Elle le dit d'entraînement, ça pose un problème, ce livret.
Ça se joue pas.
Alors, d'une part, ça va en principe se rejouer, donc à partir du 20 mai, sans Pierre Note.
Très rapidement, moi, je rejoins Jacques. Il se trouve que quand je l'ai vue, effectivement, elle était très malade, Pierre Note aussi, c'était une grosse grippe. Et du coup, ils ont voulu jouer quand même. Alors, je connais bien l'adage « The show must go on », mais pas toujours, quoi, en fait. C'est-à-dire que là, ça a mis le public dans un état de fébrilité terrible parce qu'il y avait énormément de pertes de mémoire. Le texte était complètement décousu, donc on était un peu perdu. Et on avait l'impression, en tant que public, que si on soufflait, elle allait tomber. Et par ailleurs, sur le texte, je n'y vois pas beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire que si on s'intéresse à Judith Magre, qu'on espère apprendre des choses, elle est la première à dire que le passé ne l'intéresse pas, elle est dans le présent, donc ça reste totalement anecdotique. Elle est finalement assez peu généreuse de paroles par rapport à tous les artistes qu'elle a rencontrés.
Bon, écoutez, on va pas davantage à moins que Vincent...
Non, je pense la même chose.
En revanche, la saison dernière, elle jouait elle rejouait la montagne.
Oui, la montagne.
Elle était magnifique.
Formidable. Oui. Non, mais là, elle
est toujours fascinante. Elle reste fascinante.
Si ça se reprend, sachez que c'est en tout cas aux poches Montparnasse. Et allez, on finit rapidement avec une proposition tout à fait inédite. C'est Hugo au bistrot. L'occasion pour Jacques Weber de trinquer avec le grand Victor à la Seine Thélème, qui est un restaurant alors gastronomique étoilé, je le dis quand même, de la rue Troyon à Paris, et aussi de rendre un hommage paradoxal, dans un lieu luxueux d'ailleurs, à l'écrivain qui dénonçait la misère et l'injustice. C'est le chef, Julien Roucheteau, qui propose un menu spécial Hugo. Je crois que vous avez goûté les uns et les autres.
Non,
vous n'avez pas goûté?
Non. Non, mais enfin, j'étais déjà allé dans ce restaurant. Ah, moi, c'est très bon.
J'ai découvert sur la carte, donc, il y avait effiloché de queue de bœuf aux herbes folles et tarte soufflée au chocolat. Alors, ça va être ensuite.
Tartine de moelle aussi, avec la queue de bœuf.
Mais toujours de la moelle avec la queue. Et ça va se jouer donc ensuite en tournée, et j'imagine dans d'autres restaurants ou dans d'autres.
Ah, pas forcément. C'est pas forcément des restaurants. Quand ça a été créé.
C'était lié à.
Ça a été créé il y a un an. Moi, je l'ai vu dans un petit bistrot de Paris qui était un vrai café pour le coup.
Alors que... Avant d'être là, c'était créé dans un autre bistrot.
Oui, je crois au Cardinal Mercier, si je ne me trompe, dans le 9e. Et puis, voilà. Mais là, c'est très différent parce qu'effectivement, on est dans un restaurant de luxe.
Ah oui,
de luxe. Et alors, ils ont une espèce de dispositif,
une petite boîte
à l'intérieur du restaurant.
Pour un tout petit public. Hein.
Oui. 50 personnes, pas plus.
Mais si on ne sait pas qu'on est dans un restaurant, il faut que les auditeurs comprennent, on ne voit pas l'étape du restaurant.
Oui, enfin,
c'est comme un petit théâtre miniature. On n'est pas du tout dans un bistrot ni dans un restaurant. Ouais. Hein.
Bon, non. Est-ce que ça vous a convaincu, à défaut du menu, le Hugo version
Weber? C'est toujours une joie d'entendre ça, et je dois dire que Weber le fait très bien.
Oui.
Très bien, c'est très drôle, c'est très varié. Les choix ont un peu changé par rapport à ce que j'avais vu il y a un an. Ils sont plus variés, justement.
C'est un montage très délicat.
J'ai trouvé que c'était très bien choisi, les textes étaient vraiment très bons. J'ai pris grand plaisir. C'est très court, hein, ça dure même pas une heure,
presque
55 minutes.
Presque trop court, d'ailleurs, je trouve.
Presque trop. Ouais. En tout cas, c'est un très grand plaisir pour moi.
Alors, Vincent. Plaisir partagé. Je suis très preneur, moi, de Jacques Weber. Je trouve que c'est un homme généreux, sympathique et qui aime tellement les auteurs que...
Moi, j'avais adoré sa correspondance de Flaubert.
Flaubert, c'est formidable.
Il faut en
relire son dernier
très,
livre,
très grand moment.
À la fois sur Flaubert et sur
lui. Et son livre, d'ailleurs, est très bien.
J'en ferai mon conseil à la fin de l'émission, parce que c'est
Et là, on retrouve sa générosité, son envie de partager, de nous faire connaître peut-être des textes plus ou moins connus de Hugo. Et on traverse le Hugo poète, le Hugo révolutionnaire, le Hugo qui revient sur son passé moins révolutionnaire. Et entendre Hugo en ce moment, ça fait un plaisir fou. Donc moi, je le remercie de faire ce spectacle. J'étais un petit peu déçu de ne pas être dans un bistrot, effectivement, mais dans une petite boîte de théâtre.
Et puis encore une fois, parfois, le texte de Hugo se cogne un peu sur la réalité sociale de ce restaurant.
Ah oui, il y a une grande tirade sur abolir la misère.
Voilà, c'est pas un lieu très mélanchonien.
Il faudrait qu'il revienne au café, au bar, au bistrot, avec plein de monde, du bruit. Et ça serait beaucoup plus fort encore.
Ça dit, c'est peut-être bien que les riches entendent un texte sur l'abolition de la misère plutôt que les pauvres.
Quand on mange les animaux du jardin des plantes.
Jacques, il est dans un autre.
Bon, les riches ont disparu aussi.
Il serait bien que les riches.
Comme le RTF.
Mais oui, c'est un très joli moment, et puis c'est vrai qu'on sent le plaisir de Jacques Weber à partager son amour de ses mots, son amour d'Hugo, et ses mots qui effectivement font du bien aux oreilles. Moi, je rejoins Vincent, j'aurais bien aimé le voir effectivement dans un cadre vraiment de bistrot, voir quelque chose d'un peu plus populaire, comme un surgissement comme ça de ces paroles-là. Maintenant,
Il faudrait qu'il le fasse à la fête de Lima, ça.
Quasiment. Pourquoi pas.
C'est pas un bistrot, la fête de Lima.
Mais ça pourrait être un peu déambulatoire. Enfin bon, on peut tout imaginer. Le fait est que là, ce sont des confidences, des extraits de correspondance. Ça saute un peu du coq à l'âne. Il n'y a pas véritablement de thématique, mais si ce n'est que tout est écrit par Hugo, avec quand même l'incursion d'un texte assez curieux, là, pour le coup, contemporain, sur cette histoire de RSA. Je ne sais pas qui l'a écrit, mais il y a un texte qui, très vraisemblablement, n'est pas d'Hugo. Maintenant, ça reste une chose assez modeste, simple dans son dispositif et d'une très grande proximité d'intimité avec le public. Donc, c'est un très joli moment.
Armel.
Oui, je suis complètement d'accord avec mes camarades. C'est vrai que l'incursion d'un texte contemporain sur le niveau
il arrive comme un cheveu sur la soupe.
De la société vient comme un cheveu sur la soupe. C'est Christine Weber, sa femme, qui a fait le montage. Et elle est vraiment douée pour ça, parce qu'elle a un vrai sens des liaisons, des glissements. Je voudrais citer quand même Magali Rosenzweig, qui est là, qui n'a pas grand-chose à faire, mais qui fait Juliette Drouet, qui chante un petit peu.
Et Mademoiselle Mars.
Un petit peu plus, Mademoiselle Mars. Et l'histoire du lion superbe et généreux. C'est très malin. Et moi, je m'étais jamais trouvée, au fond, aussi près...
D'un acteur,
parce que je l'ai vu jouer des petites formes dans des théâtres, mais là, on est vraiment...
On est à 1m50.
Il est sur nos genoux, quoi.
Oui, en plus, il est assez imposant.
Il est énorme, il est grand et tout, il a des pieds comme ça. Et il joue. Moi, j'étais fascinée par ce type qui a maintenant pas loin de 70 ans, faut bien le dire, à quel point il mouille sa chemise, il cherche, il fait des nuances, il est gourmand, on dirait un grand chat aussi. C'est vraiment un grand acteur.
Son Demain dès l'aube est exceptionnel.
Oui, magnifique. Oui.
Et il s'amuse même à certains moments à créer une grande complicité avec le public, avec une sorte d'explication de texte, un peu comme le ferait Fabrice Luchini sur un ou deux textes.
Il analyse les textes,
c'est vraiment
très bien.
Très drôle.
Donc, alors, c'est Hugo au bistrot qui se joue encore à la scène Télème, rue Troyon à Paris. Et donc après, à moins que vous ayez des éléments...
Oui, il y a une grande...
D'abord, ça va se jouer le 15 mai à Chartres, je crois.
À Chartres.
Une représentation unique. Et puis après
tournée,
l'an prochain, une énorme tournée.
La tournée commence en 2019. Il y a un an de tournée.
Donc en tout cas,
surveillez
vos théâtres ou vos bistrots du coin. Et puis vous verrez peut-être passer Jacques Weber incarnant Victor Hugo. Allez, le temps est venu des conseils, on en a plein. Donc moi, je vous donne le mien en attendant. Donc évidemment, c'est Jacques Weber. Moi, j'avais gardé un souvenir très fort, je l'avais vu deux fois, de son Flaubert, où il incarnait vraiment l'homme. L'homme Flaubert, avec ses passions amoureuses. Et là, il a écrit un livre qui s'appelle « Vivre en bourgeois, penser en demi-dieu ». donc chez Fayard, sur son dieu Flaubert, mystique et cotard, gourmand et ascétique. Et c'est vraiment, si on aime Weber, comme le disait à l'instant Armel, et si on aime Flaubert, Weber et Flaubert, il faut lire Vivre en bourgeois et Penser en demi-dieu, et c'est chez Fayard. Le conseil d'Armel.
Eh bien, moi aussi, c'est un livre. Ah. C'est un livre d'un de nos confrères qu'on connaît tous et qu'on aime beaucoup et dont on admire le style.
Ce que vous allez dire.
Jean-Pierre Leonardini, qui est édité au Solitaire Intempestif et qui s'appelle Qu'il crève les critiques. Ouais. Et il est bien entendu lui-même critique, nous le sommes tous. Il reprend ce titre à Tadeusz Kantor, qui avait fait un spectacle qui s'appelait « Qu'il crève les artistes ».
Moi j'ai lu le livre aussi, il y a quand même un mensonge sur la marchandise.
Ah bah complètement, parce que
ça n'est qu'un éloge incroyable de votre profession,
oui,
des journaux.
Oui, un amour du théâtre.
C'est l'histoire du théâtre.
50 ans de théâtre
et un amour de la presse aussi.
Et de l'humanité.
Analyser un amour de la presse, parce que c'est un homme de quotidien. Il est passé directement de la guerre d'Algérie, de son Marseille natal. Il est parti pour la guerre d'Algérie, puis il est arrivé tout de suite dans les journaux quotidiens.
Il raconte les bouclages à l'Humanité.
Ouais, avec Aragon qui passait. Non, c'est vraiment le livre d'un très honnête homme, d'un homme qui a un style, d'un homme élégant, d'un homme...
Limite dandy, d'ailleurs.
Qui aime, qui aime son métier, qui aime le théâtre et qui, au fond... On s'y retrouve tous parce que c'est ça qui fait que chaque soir on va au théâtre. Mais j'ai trouvé que ce qui était magistral, c'est sa manière quand même de raconter, de ressaisir.
Y compris, je trouve un portrait. Il y a tout un chapitre sur Avignon.
Ouais.
Remarquable.
Ça vous donne envie d'aller à Avignon.
La beauté, la folie du Festival d'Avignon.
Et ce qu'a vécu Villars aussi avec
les
théâtres.
Et puis, si je puis me permettre, c'est un chapitre de théâtre qui n'a jamais un seul moment d'amertume.
Ouais, jamais.
Ce qui est quand même assez.
Il est dans le remerciement finalement.
Il est dans la gratitude, absolument.
Le remerciement de cette
Jean-Pierre Leonardini, donc conseiller
pour
nous tous.
Les critiques.
En fait.
Solitaire intempestif. Ah, vous voulez
Léonardini. Oui, mais c'est au solitaire intempestif.
Ça me semble une urgence que de lire Jean-Pierre Leonardini parce que.
Oui, c'est très agréable à lire.
Oui, j'en fais un conseil aussi.
C'est pas
très évident pour moi. Pas du tout ennuyeux. C'est riche, c'est bien écrit.
C'est pas un livre. C'est savant et savoureux, mais ça n'est pas rébarbatif.
Et puis il est drôle dans la vie, Jean-Pierre Leonardini. On fait pas du copinage, mais vraiment pas. Je pense que vous serez passionné, si vous aimez le théâtre, de retrouver toute la vie du théâtre depuis 50 ans.
Mais encore une fois, lisez-le pour l'éloge de la critique qu'il contient et non pas pour le titre. Oui. Le conseil de Charlotte.
Alors, tout à l'heure, en parlant du spectacle Faust à la Comédie Française, c'était mis en scène par Raphaël Navarro, qui est l'un des effectivement artistes fondateurs de ce mouvement de la magie nouvelle. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont tout un festival en ce moment, donc au Théâtre du Rond-Point à Paris, c'est jusqu'au 30 mai, avec beaucoup de spectacles différents, donc des artistes avec lesquels ils collaborent. Et il y a notamment...
Que de la magie ?
Oui. Mais ce sont des spectacles très différents, toutes sortes de spectacles. Et moi, il y en a deux que je voudrais recommander particulièrement. D'une part, Le Paradoxe de Georges de Yann Frisch, qui est champion de France et même du monde, d'ailleurs, de magie, qui propose un spectacle de cartomagie, c'est-à-dire de manipulation de cartes, dans un camion théâtre. C'est une espèce de roulotte camion posée dans les jardins du Rond-Point, donc avec une grande proximité et un tout petit public. Et puis surtout, ce spectacle absolument sublime qu'on considère comme l'un des spectacles fondateurs de ce mouvement de magie nouvelle, qui s'appelle Wade in the Water, qui est donc signé par Raphaël Navarro et Clément de Bailleul, et qui est là une sorte de fantasmagorie autour du deuil, avec trois interprètes, mais qui sont très à l'aise avec leur corps. Ils sont à la fois danseurs, acrobates, et donc très à l'aise avec les effets magiques que vous allez découvrir en scène. Musique originale Ibrahim Malouf, c'est extraordinaire, une espèce de rêve éveillé, et vous allez voir en scène des choses que la réalité, le pragmatisme
se résout. Maintenant, et on va suivre votre conseil. Donc, allez voir les magiciens. Et on va finir avec Jacques.
Et moi, je conseille...
Lui aussi a un usage extraordinaire de son corps. Il est entre le danseur, le comédien.
Je suis allé voir Providence, une pièce de Neil Labute qu'on avait déjà vue il y a plus de 10 ans, mais qui était déjà jouée par le même acteur dans une autre mise en scène. Et cet acteur, c'est Xavier Gallais, qui est vraiment un acteur éblouissant. C'est une pièce mise en scène par Pierre Laville. Ça se donne donc au Théâtre des Déchargeurs et c'est à 19h30. je crois ne pas me tromper. Non, c'est à 21h30.
21h. Ouais,
et c'est vraiment remarquable. Je conseille vraiment d'aller voir Xavier Gallais, qui est un acteur qui m'épate chaque fois que je le vois sur scène.
Tous ces conseils, vous les retrouvez bien sûr sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Armel Elliot, Charlotte Lipinska, Jacques Nerson et Vincent Josse pour cette émission, qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam, et ce soir au Charles Trenet à la technique. Et je les remercie, Marie Le Peintre, Stéphane Touvenin, Nicolas Depagraf et Laurent Binder. La réalisation était de Didier Lagarde. Vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh bien, c'est le jeudi 3 mai. Je vous attends à 20h au studio Charles Trenet de la Maison de la Radio pour deux émissions, l'une qui sera consacrée au cinéma et l'autre à la littérature. Dans une semaine, on parle de films. Et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.